Marceau le midi. Marceau le midi. All right.
À tous, un excellent mercredi sur les ondes de boulevard 101, 10h25. C'est 12 degrés sur Québec. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver pour les prochaines heures côté météo? Une alternance de soleil et de nuages, donc une belle journée, maximum de 19. Ce soir, partiellement nuageux, mon Jeff, minimum de plus 5 degrés. Jeudi, une belle journée ensoleillée, maximum de 20. Puis c'est ça la bonne nouvelle, c'est de jeudi jusqu'à mardi prochain, on nous annonce du soleil à tous les jours, pratiquement pas de probabilité d'averse. Donc, ce sera la Rumba pour toi et tes enfants, j'imagine.
Oui,
ensoleillé,
exactement.
Demain avec un maximum de 20. Vendredi, ensoleillé, maximum de 22. Samedi, ensoleillé, maximum de 25. Et dimanche, un maximum de 24. Une alternance de soleil-nuage. Puis lundi, à plus long terme, alternance de soleil-nuage avec un maximum de 28 degrés. Quelqu'un à qui j'aime bien jaser, qui semble avoir vécu toute une épopée avec la ville de Québec, c'est la présidente du syndicat des policiers qui a dû se ramasser en cours avec la ville de Québec parce que la ville de Québec a réagi avec mauvaise foi, tellement qu'on aurait voulu la congédier. Son nom, c'est Martine Fortier. Ça nous fait toujours un plaisir de lui jaser. Je vous rappelle qu'elle est présidente de la Fraternité des policiers et des policières de la ville de Québec. Bonjour, Mme Fortier.
Bonjour.
Quelle histoire! Vous devez être contente de vous être sortie de ça puis de vous faire dire que tabarouette, la ville va devoir payer pour les dommages. Mais je vais vous dire, 1 000 $, c'est pas assez cher pour ce que vous avez vécu pendant ce temps-là.
Ouais, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 1 000 $, c'est des dommages moraux, mais c'est pas sur le fond du dossier. C'est vraiment le dossier, l'arbitrage de grief qui s'est déroulé, c'est vraiment sur la forme, c'est sur les articles de la convention collective qui n'ont pas été respectés quant au délai pour l'envoi de l'avis d'enquête ainsi que la divulgation de la preuve qui était incomplète. Donc, les dommages sont vraiment uniquement pour cette portion-là. On n'a pas, l'arbitre n'a pas entendu tout le dossier au complet. Dans le fond, le dossier ayant amené le comité de discipline et tout ça, parce qu'évidemment, vous comprendrez que les dommages auraient possiblement été davantage important.
Ben, je comprends donc.
Oui, fait que c'est vraiment la distinction au niveau des dommages moraux. Il faut vraiment que ce soit calculé, basé sur des éléments précis. Là. Donc, puis nécessairement, les arbitres sont quand même liés avec des décisions puis avec des historiques aussi, là, des jurisprudences par rapport à ça.
Comment ça s'est passé? Racontez-moi l'histoire au départ, puis par la suite, tout ce que vous avez vécu dans les derniers mois.
Ben, en fait, faut se rappeler que moi, en 2022, mon poste était tombé en élection.
Oui.
Donc, évidemment, on savait que en décembre 2023, la convention collective allait être échue. Donc, la personne qui allait être élue au poste de président allait être la personne avec qui l'employeur allait négocier. Donc, mon poste tombe en élection. C'est une période qui est assez difficile au niveau familial. Mon beau-père est en fin de vie. Mon conjoint, qui est membre de l'exécutif syndical également, et accompagne son père en fin de vie et s'occupe de lui parce qu'il avait décidé de rester à la maison. Donc, on est à l'automne, mettons septembre 2022, on est dans cette période difficile-là. Mon poste est en élection, donc à l'exécutif syndical, il me manque 2 personnes à temps plein, en plus de mon poste qui est en élection. Puis comme il y avait une personne qui s'était présentée contre moi, évidemment, vous comprendrez que je ne pouvais pas prendre des décisions qui auraient pu avoir des conséquences sur mon successeur,
exact,
le cas échéant, si je n'avais pas été réélu. Donc, il faut comprendre que l'exécutif fonctionnait, dans le fond, avec la moitié de l'effectif normal. Et malgré ça, l'employeur multipliait les demandes. T'sais, pas traiter tel dossier. Donc, tu sais, moi, je leur répondais que je n'étais pas en mesure de traiter tous les dossiers.
Ouais, puis on vous disait que certains dossiers étaient urgents alors que c'est des dossiers qui traînaient depuis un an.
Exactement. Il y avait des dossiers qui traînaient depuis plus qu'un an. Puis ironiquement, c'est qu'il y a certains de ces dossiers-là qu'au 1er janvier 2024 n'étaient pas réglés encore. Fait que c'est pour vous dire l'urgence réelle de ces dossiers-là. Elle n'en était pas une. T'sais. Donc oui, certains dossiers étaient plus importants. Ça, je suis d'accord, j'en conviens. Mais il y en avait d'autres qui pouvaient facilement attendre un mois ou deux. Moi, dans le fond, ce que je voulais, c'était juste d'avoir, mettons, un petit répit, le temps que les choses se tassent, que l'élection soit terminée, que la période de deuil soit quand même un petit peu derrière nous, dans le sens que, je veux dire,
vous vouliez
être décédé en septembre.
Exact. Vous vouliez être traité convenablement, là, comme quelqu'un qui avait la perte d'un proche, là.
Exactement. Tu sais, moi, comme je dis, on a un père, on a une mère. On les perd une fois dans une vie.
Exact.
Et tu sais, il y a un côté humain à ça, qu'un employeur a un devoir de bienveillance envers ses employés. Puis moi, bien que je sois la présidente de la fraternité, puis qu'il y ait une guerre à finir avec moi depuis mon entrée en poste, il y a quand même, je pense, que j'avais le droit de demander et d'avoir une trêve humaine à ce moment-là. Puis elle était justifiée, et je l'ai demandé, je l'ai demandé poliment, je l'ai demandé gentiment, je l'ai répété, mais je ne l'ai pas eu. Et là, à un moment donné, moi, la seule option qui s'offrait à moi, parce que je ne serais pas, tu sais, j'étais littéralement en train de me noyer. Tu sais, c'est dur de gérer tout ça. Tu as la campagne électorale, tu sais, tu as la période de deuil. En plus, il y a la rentrée scolaire, il y a tout le reste qui vient avec. Tu sais, c'est une période qui était très, très difficile. Et dans le fond, comme ça ne cessait pas, moi, tout ce que je voulais, c'était que ça arrête. Mais ça n'arrêtait pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai pas le choix de déposer une plainte de harcèlement contre des représentants de l'employeur. Tu sais, puis la plainte consistait simplement c'était une preuve de documentaire. Tu sais, c'était des échanges courriels. C'était une plainte de mobbing. On appelle ça comme ça.
Ouais.
C'est la mobilisation de plusieurs acteurs pour embourber une personne puis l'écœurer.
Okay.
Donc, c'était l'essence de ma plainte.
Mais dans votre cas, à vous, Mme Fortier, là, l'employeur, parce que vous êtes président de la Fraternité des policiers et des policières de la Ville de Québec, est-ce que c'est la police de Québec ou l'employeur, c'est vraiment la Ville de Québec?
Bien, mon employeur, c'est la Ville de Québec.
OK.
Par contre, la direction du service de police et les ressources humaines travaillent en collaboration, dans le fond. Puis quand on a des comités de relations de travail et tout ça, les deux parties sont impliquées, autant la direction du service que la direction des ressources humaines. Donc, c'est vraiment...
Et pourquoi vous considérez qu'il y a une guerre entre vous et les patrons à Ville-de-Québec?
Ben, écoutez, on se cachera pas que depuis que je suis arrivé en poste, il y a eu une multiplication des poursuites, des interventions. On a essayé de me baïonner.
Oui.
Il y a eu la procédure d'injonction qui a été déposée en 2021, dans le fond, pour m'obliger à demander au chef de police sa permission pour m'adresser à quiconque pour tout ce qui est opérationnel, tactique ou stratégique. Bien, vous comprendrez que tout ce qui concerne la police, c'est soit opérationnel, tactique ou stratégique. Fait que c'est comme dire, bien, tu vas demander la permission au directeur pour parler à quiconque de tout ce qui est relatif à la police. Pensez-vous vraiment que le directeur va m'autoriser? Puis pensez-vous que ça a du sens ce qu'un représentant syndical doit demander au chef de police? Hey, je peux-tu donner une entrevue pour parler de telle chose? Puis je peux-tu dénoncer à la CNSST que les pneus que nos voitures de police sont encore en pneus verts rendus au mois de mai? Ça n'a aucun sens.
La réponse va pas mal toujours être non, je pense.
Ben voilà.
Fait que c'est ça.
À partir de ce moment-là, j'ai plus de légitimité, j'ai plus de raison d'être en tant que président de la fraternité.
Ouais.
Je peux plus représenter les membres. Ça n'a aucun sens. Fait que c'était quelque chose qui était inacceptable. Puis, tu sais, on s'est battu pour ça. La Cour supérieure a décliné compétence et a ramené ça à l'arbitrage de grief. L'employeur qui aurait pu dire, bien, regarde, on arrête ça là, on repart en neuf, mais on a décidé de déposer un grief patronal et de poursuivre dans ce sens.
Puis moi, ce qui me perturbe, c'est que vous faites une plainte là-dessus en disant, hey, écoutez, je suis victime d'harcèlement, mais dans le fond, votre plainte, on la traite jamais. On vous dit qu'elle va être non recevable, mais on n'a jamais fait le travail, c'est ce que je comprends.
Bien, en fait, on ne m'a jamais dit qu'elle n'était pas recevable. Moi, on me laissait avec l'idée qu'elle était recevable parce qu'on m'a dit, le 5 décembre, j'ai été la directrice du développement organisationnel, Émilie Gagnon, m'a envoyé un texto pour me dire que les enquêteurs de la firme PRDSA, qui est une firme de Montréal, recommandaient de poursuivre l'enquête sur le fond dans mon dossier, que les mises en cause allaient être rencontrées. Donc, elle m'a laissé croire que ma plainte était recevable parce que l'enquête sur le fond ne peut pas être tenue selon la politique d'harcèlement si elle n'est pas recevable. À partir du moment où est-ce qu'une plainte est jugée non recevable, il n'y a aucune enquête sur le fond qui se fait. Ça, c'est ça, la partie de la politique. Et à ce moment-là, ils suggèrent des mécanismes alternatifs. Puis, bon, mais moi, à partir du moment où est-ce qu'on me dit qu'il va y avoir une enquête sur le fond, je ne peux pas penser autre chose que ma plainte est recevable. T'sais. Donc, ils m'ont laissé avec cette idée-là. Même rendu au mois d'avril 2023, j'ai soumis des nouveaux éléments aux enquêteurs de la firme, à maître Jean Marois puis à maître Raphaël Gauthier, pour leur dire, bon, voici ce qui s'est passé de nouveau dans mon dossier. Et la réponse qu'on m'a fait, c'est parfait, nous allons verser le tout au dossier. Merci. Donc, encore là, ils ont eu l'occasion de me dire oh, « Mais madame, sortez votre plainte, c'est pas recevable. » Donc, ça donne rien de jeter ça au dossier. Mais on m'a laissé avec l'idée que ma plainte était recevable et qu'elle était enquêtée.
Ouais.
En fait, ma plainte n'a jamais été enquêtée.
Dans le dossier, il y a des gens qui étaient sous serment, qui semblent avoir menti. Est-ce que ces gens-là peuvent avoir des problèmes? Quand on ment sous serment, normalement, c'est parce qu'il peut y avoir des problèmes par la suite?
Effectivement, c'est quelque chose qui est sanctionnable. Est-ce que ça va être sanctionné? Je le sais pas. Écoutez, je vous cacherai pas que j'ai perdu beaucoup d'illusions relativement à ce qui se passe à la Ville de Québec, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, les échanges courriels entre Mme Gagnon et les avocats enquêteurs, où est-ce qu'elle demande de modifier les rapports sans modifier la date et qu'elle suggère des textes qui, à la demande des procureurs de la Ville de Québec. Écoutez, ça, c'est troublant. C'est vraiment troublant.
Est-ce que c'est une policière aussi, cette dame-là?
Non, c'est la directrice. Dans le fond, elle est une des... Ben, c'est pas la directrice des ressources humaines. Quoique la directrice des ressources humaines, Sylvie Landron, c'est sa supérieure, mais elle était en copie de tous les échanges et était au courant de tout le dossier.
Parce que modifier des rapports sans modifier la date, c'est parce qu'on va jouer dans des places où on n'est pas supposé de jouer, là.
Exactement, ça se fait pas. Normalement, quand on modifie, qu'on veut modifier un rapport, nous, en tant que policier, ben, il faut faire un complément de rapport avec la date du jour où est-ce qu'on fait le complément. Mais dans le cas de la Ville de Québec et des avocats enquêteurs, il y a eu une demande de modification de rapport sans modification de date. Au lieu de dire, ben, on va faire un addendum, puis il n'y a jamais eu d'opposition de la part des avocats enquêteurs. C'est ce qui est troublant aussi. Les avocats enquêteurs, eux, ont reçu la requête et ont donné suite sans poser de questions, sans dire éthiquement, c'est peut-être pas l'idéal, là, tu sais. Fait que c'est, il y a un paquet de choses qui sont ressorties de cet arbitrage-là qui sont troublantes et vraiment, tu sais, je suis à analyser, tu sais, pour la suite des choses, de ce qui va être à faire.
Là, le juge vous a donné raison, Mme Fortier. La suite, ça va être quoi?
Ben, la suite, en fait, normalement, la Ville de Québec, il y a un délai de 30 jours, une possibilité de dans le fond, de déposer un pourvoi en contrôle judiciaire pour contester la décision. Par contre, c'est des critères très précis là, qui peuvent amener, dans le fond, l'autorisation d'une contestation comme celle-là. Est-ce que ces critères-là peuvent être rencontrés? J'en doute à la lecture que j'en ai faite, mais évidemment, ben, c'est sûr qu'ils doivent se pencher sur la décision à savoir est-ce qu'ils ont des ouvertures pour pouvoir contester la décision en question. S'ils ne contestent pas la décision à ce moment-là, la 31e journée, ils devront m'avoir versé le 1000 $ et c'est sûr, dans le fond, la décision va être finale à ce moment-là.
Faut être fait fort, Mme Fortier, puis je pense que vous êtes faite extrêmement forte. Bravo d'avoir réussi à passer au travers de tout ça. Puis j'espère que ce sera terminé, le harcèlement que la Ville fait à votre égard.
Je le souhaite, mais vous savez, écoutez, pour moi, il n'y a jamais été question de laisser tomber. Parce que si je laissais tomber, je laissais tomber mes membres.
Exact.
Et ça, c'est, ça fait même pas partie des options possibles. Ça n'a aucun sens ce qui s'est passé. Puis moi, ce qui me trouble aussi, c'est que je sais qu'il y a des gens qui ont été congédiés par la politique de harcèlement de la Ville. Et je me questionne à savoir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont subi ce que j'ai subi sans le savoir? C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant que le service des ressources humaines se serve de sa politique pour contrer les incivilités, l'harcèlement, la violence au travail, pour congédier la présidente du syndicat. Imaginez ce qu'elle peut faire aux employés avec cette politique-là.
Mme Fortier, c'est toujours un plaisir de vous jaser.
Bien, moi aussi.
Merci beaucoup.
Au revoir. Bonjour.
Martine Fortier, qui est présidente de la Fraternité des policiers et des policières de la Ville de Québec. Quelle histoire!
Hein? Ah, puis c'est épouvantable. Ça va complètement à l'encontre de toutes les pratiques en ressources humaines. Je veux dire, on falsifie des rapports, on donne des lignes de conduite sur quoi écrire, quoi dire.
Eux, ils ont utilisé modifier, là.
Ouais,
mais oui,
ça.
C'est falsifié.
Ben oui.
Surtout si tu ne changes pas la date.
Là. On met une pression énorme sur une personne qui est en train de vivre un deuil. Donc, il y a plein de comportements d'intimidation et d'agression là-dedans qui sont faits par les dirigeants des ressources humaines de la Ville de Québec. Normalement, ces dirigeants-là sont censés protéger les employés contre ce type de harcèlement-là. Donc, c'est ce qui est abominable.
Oui, puis pensez pas que c'est juste le service de police de la Ville de Québec qui est comme ça. Là, dans les dernières années, des employés de la Ville de Québec nous rapportent que du harcèlement, il y en a bien en masse. On en a eu du harcèlement là, pour ce qui est du conseil de ville. Il y a des conseillers qui se disaient être victimes d'harcèlement. Le maire Marchand dit, il s'en est lavé un peu les mains en disant que c'est comme ça partout, puis que là, on va faire attention. Là, on va se jaser, puis ça va bien aller. Mais de voir qu'on essayait de mettre Martine Fortier dehors, en raison de son poste, là, on va se le dire, là, elle, c'est la présidente de la fraternité des policiers et des policières de la Ville de Québec. Puis ce qu'on voulait, c'est qu'à chaque fois qu'elle parle de la police, il fallait qu'elle passe par le chef de police pour lui demander si elle avait la permission. Ça n'a pas de bon sens. Elle n'aurait pas pu continuer à faire son travail. Puis elle l'a bien dit, tu sais, si elle veut dénoncer qu'au mois de mai, au mois de juin, il y a encore des pneus d'hiver sur les véhicules de police, penses-tu que le chef de police va la laisser dire ça? C'est sûr que non.
Bien, c'est sûr que non. Puis, tu sais, en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que là-dedans, tu sais, la partie patronale, la partie syndicale s'entendent sur plusieurs points. C'est pour ça qu'il y a des conventions collectives qui existent. Puis, il y en a d'autres dans lesquelles sont en litige. Puis, il faut que les deux aient le droit de liberté de parole de leur côté. Là.
Exact. Vous avez des choses à nous dire? C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. On vient.
Transat présente un homme qui pratique.